Merci d'écouter RFI, il est 7h à Paris, 8h à Kiev.
RFI Matin, édition spéciale en direct de Kiev. Andréane Mélard.
Bonjour à toutes et à tous. Et bonjour Martin Guez.
Et bonjour Andréane Mélard.
Dans 10 minutes, édition spéciale en direct de la capitale ukrainienne en ce 24 février 2025, 3 ans très précisément après le lancement de l'invasion russe de l'Ukraine. Avec nos invités, avec aussi Emmanuel Chaz, correspondant d'RFI à Kiev, Anastasia Becchio, régulièrement envoyée spéciale d'RFI en Ukraine. On est installé ce matin au café Cupidon de Kiev, à quelques mètres de la place Maïdan. Pendant 1 heure, on va parler de cette guerre meurtrière toujours en cours qui continue de bouleverser l'ordre mondial. En ce 24 février, RFI donne la parole aux Ukrainiens et on se retrouve dans 10 minutes juste après votre journal, Martin.
Et à tout de suite, Andréane Mélard, on vous laisse donc vous installer dans le studio RFI de Kiev. On vous laisse accueillir vos invités, nos correspondantes et avant de vous retrouver, dans une dizaine de minutes, on démarre ce journal en Allemagne au lendemain des élections législatives anticipées dans le pays. Élections sans surprise, résultat proche des projections des sondages. Comme prévu, les conservateurs de la CDU arrivent en tête. Percés de l'extrême droite, l'AFD double son score et les sociaux démocrate du SPD s'écroule. Bonjour Pascal Thibault.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Berlin. La CDU de Friedrich Merz a gagné et se cherche désormais des alliés pour gouverner.
Oui, effectivement, vous le disiez sans surprise, les chrétiens-démocrates de Friedrich Merz remportent les élections, mais sans triomphe, avec 28,6%, ils restent sous la barre des 30%. Il s'agit du deuxième plus mauvais résultat de cette force depuis la guerre. Pourtant, le gouvernement sortant et surtout son chancelier Olaf Scholz atteignaient des records d'impopularité historique dont la CDU ne profite pas énormément. Les sociaux-démocrates, eux, subissent une défaite historique avec 16% des voix, moins 10%. Olaf Scholz raccroche donc. Le grand gagnant de l'insatisfaction massive en Allemagne, c'est l'extrême droite. L'AFD double son score de septembre 2021 avec plus de 20%. Malgré ce succès historique, toutefois, toute alliance à droite reste exclue avec les chrétiens-démocrates. L'AFD restera donc dans l'opposition. Friedrich Merz devrait gouverner avec les perdants du SPD. Chrétiens et sociaux-démocrates disposent ensemble d'une majorité en siège. Le parti de gauche affaibli a déjà tendu la main à Merz, mais va monnayer son soutien. Malgré son faible score, Friedrich Merz espère boucler les négociations d'ici Pâques à la mi-avril.
Merci Pascal Thibault, en direct de Berlin. Pascal, qu'on retrouve dans un peu plus d'une heure, 7h15, temps universel, édition spéciale sur les élections allemandes à suivre avec Arnaud Pontus. Mais avant notre édition spéciale allemande, les 3 ans de la guerre en Ukraine, nous serons donc à Kiev, autour d'Andréane Mélard dans un instant. L'Ukraine, où Volodymyr Zelensky se dit ce dimanche prêt à quitter la présidence en échange d'une adhésion de son pays à l'OTAN. Réponse directe à Donald Trump, qu'il a récemment qualifié de dictateur. Volodymyr Zelensky qui va rencontrer le président américain avant que ce dernier ne s'entretienne avec Vladimir Poutine. Tandis qu'en Ukraine, 3 ans après le début de la guerre, l'armée manque de bras face aux Russes qui continuent de grignoter du terrain dans l'est ukrainien. La pression est très forte sur les soldats. Nos envoyés spéciaux Anastasia Becchio et Boris Vichit ont rencontré l'un d'entre eux.
Sa longue barbe ne parvient pas à masquer les signes de fatigue sur son visage. Le sergent Oleksiy Hodzenko ne le cache pas, il est exténué.
Je suis fatigué, mon corps, mon dos, ma tête est fatiguée, tout chez moi est fatigué. Depuis 2021, je n'ai pas pris de vacances normales, celles où je peux éteindre mon téléphone.
Ancien journaliste, Oleksiy s'est engagé dans l'armée pour combattre les forces séparatistes dans le Donbass en 2019. Un engagement qui a un prix.
J'ai passé exactement un tiers de ma vie à la guerre. Je ne possède pas, comme les gens de mon âge, ma propre maison, ma propre entreprise ou ma propre voiture. Je n'ai ni femme ni enfant. Parce que si des gens comme moi, nous ne choisissons pas de nous battre pour l'indépendance de l'Ukraine, l'avenir de l'Ukraine, alors rien de tout ça ne n'existera. Il faut bien que certains se sacrifient, c'est une guerre sainte.
Comme beaucoup, le trentenaire attend la fin de cette guerre, mais pas à n'importe quel prix.
Il est clair que dans toutes les armées, il y a des maniaques sanguinaires qui aiment ça, mais la plupart des gens n'aiment pas la guerre, ils n'aiment pas ces missiles qui explosent. Moi, j'en ai soupé, j'en ai assez, mais puisque j'ai commencé, il faut bien que j'aille au bout. À la guerre, j'ai déjà enterré mon père et une tonne d'amis. Mon répertoire téléphonique ressemble plus à une longue nécrologie. Dans ces conditions, comment puis-je arrêter ?
Anastasia Becchio, Boris Vichit, Kiev, RFI.
Kiev doit se rendre aujourd'hui le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Et à l'arrivée, en train, avec Antonio Costa, le président du Conseil européen. Le Premier ministre britannique Keir Starmer doit quant à lui annoncer un nouveau train de sanctions contre la Russie en ce jour anniversaire des 3 ans de la guerre. RFI 7h05 à Paris, l'Ukraine toujours. Il devrait en être question entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Première rencontre entre les deux chefs d'État ce lundi depuis le retour du républicain à la Maison-Blanche. Emmanuel Macron qui veut présenter des propositions d'action pour conjurer la menace russe et garantir une paix durable en Ukraine, selon ses mots. Le président français qui espère convaincre son homologue américain de ne pas céder à Vladimir Poutine. Valérie Gasse.
Le risque d'un accord entre Donald Trump et Vladimir Poutine a redonné du poil de la bête à Emmanuel Macron. Le président français a remis son costume de super diplomate en réunissant, en début de semaine dernière, deux sommets avec des dirigeants européens pour tenter de trouver une position commune, alors que les émissaires américains et russes s'étaient rencontrés à Riyad sans Volodymyr Zelensky, ni représentant de l'Europe. Emmanuel Macron a aussi fait passer des messages à ses concitoyens, notamment lors d'un échange en direct sur les réseaux sociaux pour expliquer que la Russie constituait une menace existentiel pour les Européens. Jusqu'à la veille de son départ, alors qu'il visitait le salon de l'agriculture, Emmanuel Macron a envoyé des signes de son volontarisme. « Je suis déterminé », a expliqué le chef de l'État qui a dit souhaiter un échange amical avec le président américain. Encore une fois, il espère qu'il va pouvoir utiliser les liens noués avec Donald Trump pour lui faire comprendre les risques d'une capitulation face à Vladimir Poutine sur les conditions de la paix et qu'il a intérêt à mettre l'Ukraine et les Européens à la table des négociations. Réussira, réussira pas, la méthode Macron, c'est de toujours tenter.
Valérie Gasse du service politique de RFI, Emmanuel Macron qui est arrivé hier soir à Washington et qui doit donc rencontrer Donald Trump tout à l'heure avant une conférence de presse commune en fin de journée. En République démocratique du Congo, l'ancien président Joseph Kabila sort de son silence dans les colonnes du Sunday Times, journal sud-africain. Au pouvoir de 2001 à 2019, l'ex-chef d'État s'en prend frontalement à l'actuel président, Félix Tshisekedi, en dénonçant un régime tyrannique marqué par des violations de la Constitution et des droits de l'homme. Joseph Kabila qui accuse aussi le pouvoir en place d'être responsable de la crise sécuritaire marquée par la percée du M23 soutenue par le Rwanda dans les deux Kivus. Cette première prise de parole de Joseph Kabila depuis 2019 a retrouvé dans la longueur sur notre site internet www.rfi.fr à l'onglet Afrique. Et puis enfin en France, ouverture ce lundi d'un procès hors norme. Sans doute la plus grande affaire de pédophilie jamais jugée dans l'Hexagone. L'affaire Joël Le Squarnec, du nom de cet ancien chirurgien accusé de viol et d'agression sexuelle sur pas moins de 300 enfants dans de nombreux hôpitaux de l'ouest de la France. Des faits qui se sont déroulés entre 1989 et 2014. Début du procès aujourd'hui à Vannes, en Bretagne. 8 ans après la révélation retentissante de l'affaire. L'affaire Joël Le Squarnec, que nous résume Baptiste Coulon.
Mai 2017, le domicile de Joël Le Squarnec est perquisitionné. Sa voisine a déposé plainte. Elle accuse le chirurgien d'avoir abusé sexuellement de sa fille à travers la clôture du jardin. Dans la maison, les enquêteurs découvrent des contenus pédopornographiques et surtout plusieurs journaux intimes. Des dizaines de pages qui décrivent 25 années de viol et d'agressions sexuelles que Joël Le Squarnec aurait commis dans plusieurs hôpitaux à partir de 1989. Des carnets où figurent le lieu, la date de l'agression et le prénom de la victime. Les enquêteurs en identifient plus de 300 agressés dans leur chambre au bloc opératoire, souvent sous anesthésie. Des enfants qui apprendront parfois plus de 20 ans après les faits, une fois adultes, qu'ils sont victimes de Joël Le Squarnec. Le chirurgien a sévi 25 ans malgré les alertes remontées par certains de ses collègues, malgré une première condamnation en 2005 pour détention d'images pédopornographiques. Alors y a-t-il eu des failles et que savait son entourage ? Ce sont à ces questions que les victimes attendent une réponse. 4 mois d'audience démarrent aujourd'hui. Joël Le Squarnec risque jusqu'à 20 ans de prison.
Baptiste Coulon du service France de RFI. Allez, on termine en musique avec un gaou, un paysan, un guajiro, mais un guajiro chic, attention.
Te sorprenderá lo que estará contigo si antes de seguir. Escucha bien lo que te dice el corazón. Te sorprenderá la vuelta que da el destino. Pensó quizás como cualquiera. Llegas de brazo de papa como en la tradición. Mucha luz, mucha.
Le Cubain Raúl Paz, de retour au pays et de retour avec un 14e album, Guajiro Chic. Raúl Paz, choix musical d'Olivier Roger qui viendra tout à l'heure nous en parler avec Arnaud Pontus. Mais tout de suite, on file à Kiev pour retrouver Andréane Mellard. Andréane, tout est en place pour le studio RFI.
Merci Martin Guèze et à tout à l'heure RFI Matin en ce lundi 24 février 2025. On est à Kiev, bienvenue si vous nous rejoignez.
Je pense qu'on obtiendra un cessez-le-feu dans un futur proche. L'Ukraine considère une négociation sur l'Ukraine, sans l'Ukraine, comme vouée à l'échec. Nous ne pouvons reconnaître aucun accord sans nous.
Quelle que soit la paix négociée, ce sera une paix longue et durable.
Je suis fatigué, mon corps est fatigué, mon dos est fatigué, ma tête est fatiguée, tout est fatigué.
La guerre doit s'arrêter un jour, mais pas tout de suite, j'en suis sûre. Elle ne s'arrêtera que quand l'agresseur cessera de nous attaquer.
RFI en direct de Kiev.
L'Ukraine ne cédera pas, l'Ukraine ne rendra pas les armes. Voilà ce qu'on comprend dans les mots de cette femme ukrainienne. Et cela résonne tout particulièrement ce matin, 24 février 2025, trois ans après le lancement, en pleine nuit, par le président russe Vladimir Poutine, d'une invasion militaire à grande échelle dans le pays. Une guerre qui dure trois ans, qu'elle tue, qu'elle blesse, qu'elle épuise, qu'elle prive. Trois ans qu'elle bouleverse les rapports internationaux, l'équilibre de tout un continent et même du monde entier, encore plus depuis qu'un certain Donald Trump est de retour aux manettes, mais que l'Ukraine semble vouée à n'être que figurante dans le scénario qui est en train de s'écrire. Trois ans après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, RFI vous fait entendre ce matin les Ukrainiens, qu'ils soient dans la capitale, à Kharkiv ou Zaporijia, comment survivent-ils ? Les entendre sur ce tournant auquel ils assistent aujourd'hui. La défaite est-elle une option ? Si négociation il y a, comment peser ? Et avec quels alliés ? C'est ce qu'on va voir avec nos invités. Et ils sont à mes côtés, installés dans l'abri du Café Cupidon à Kiev ce matin. Bonjour Tetiana Orgakova.
Bonjour.
Universitaire, journaliste, vous dirigez le département international de l'Ukraine Crisis Media Center. Avec nous également Oleksiy Goncharenko, vous êtes député d'opposition de la région d'Odessa à la Rada, le Parlement ukrainien. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et puis aussi Maxime Chervaux, bonjour.
Bonjour.
Professeur agrégé à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8, également présente autour de la table à mes côtés, Emmanuelle Chaz, correspondante d'RFI en Ukraine. Bonjour Emmanuelle.
Bonjour Andréane.
Et merci à toutes et tous d'être là en direct de Kiev où il est 8h12. Alors ce qu'on entend ici sous ma voix, eh bien, c'est Kiev. Hier soir, on est dans le centre-ville avec ses voitures sur l'avenue, les passants nombreux sur les trottoirs bordés de magasins illuminés, les restaurants, les bars sont pleins. En fait, ce qu'on observe, eh bien, c'est une ville, tout ce qu'il y a de plus classique. Même si tout d'un coup, on arrive, place Maïdan, avec des drapeaux par centaines, des photos de soldats tombés au front, du recueillement. Et dans une heure ou deux, les sirènes d'alerte aérienne qui commenceront à retentir comme chaque soir, mais que beaucoup à Kiev semblent ne plus entendre. Tetiana Ogarkova, vous qui vivez à Kiev, après trois ans de guerre, est-ce que vivre normalement, c'est une forme de résistance ?
Oui, on peut dire actuellement que la vie à Kiev est quasi normale, sauf des sirènes. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a les cafés, il y a les restaurants que vous avez évoqués, mais il y a surtout les écoles maternelles pour les enfants, parce que l'avenir, ce sont les enfants, évidemment. Les Ukrainiens accrochent à vivre normalement, pas qu'à Kiev, mais aussi ailleurs, dans d'autres villes. C'est vrai que beaucoup de gens ne font plus attention à des alertes aériennes, puisqu'ils sont tellement nombreux que ça sert à rien que de vivre dans les souterrains. Et à la fois, cette normalité, elle peut être explosée à une seconde, comme ça arrive malheureusement tout aussi bien à Kiev. Cette nuit, par exemple, il y avait un drone qui est arrivé dans un immeuble encore en construction, donc le gardien était gravement blessé, à un kilomètre à peine de mon appartement. Il y a trois semaines, un couple a été tué également dans l'immeuble à côté de chez nous. Donc ça peut arriver à tout moment, malheureusement, en même temps de cette normalité, entre guillemets, qui existe bien sûr.
Oleksiy Goncharenko, quand on est comme vous, élu de la région d'Odessa, très régulièrement visée et touchée par les Russes, est-ce que votre vision est différente ? Est-ce que cette normalité est peut-être moins perceptible, moins évidente ?
Oui, les gens veulent vivre, et c'est la normalité, quasi-normalité, comme ma collègue a dit, Et en Odessa, Odessa est la plus française ville de l'Ukraine. Et comme la ville méditerranée, beaucoup de vivres. Mais il y a beaucoup des attaques de la Russie. Et je pense aujourd'hui, Odessa est la cible numéro un pour Poutine. Parce que je pense que c'est la place la plus stratégique maintenant en Ukraine. La mer Noire, le plus grande porte au bord de mer Noire. Et aussi, c'est le couloir à Transnistria, à Moldavie. Et c'est clair que cette partie de l'Ukraine est beaucoup d'attaques et beaucoup d'attaques russes toujours. Mais aussi, nous croyons à notre victoire. Nous croyons que c'est possible vivre la vie normale. Et nous sommes fatigués, mais nous sommes prêts pour combattre, pour continuer de lutter.
Alors, l'attente d'une victoire, une vie quasi normale, ce sont vos mots ce matin. Emmanuel Chasse, vous qui suivez le conflit depuis le début, est-ce que vous avez vu l'Ukraine changer pendant ces trois ans, depuis ce 24 février 2022?
Oui, absolument. Ce que disait Oleksiy est très juste. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont très fatigués après trois ans de guerre à grande échelle. Mais pour beaucoup, cette guerre a commencé il y a 11 ans. Déjà, c'est seulement trois ans qu'elle est sur la scène internationale aussi visible. Ce qui a changé, donc, c'est l'état de fatigue. Ça ne veut pas forcément dire que la motivation n'est plus là, puisque pour les Ukrainiens, il s'agit véritablement, comme le disait Tetiana, d'une guerre de survie. Ce n'est pas un choix que font les Ukrainiens que de résister. Ils n'ont simplement pas d'autre choix que de le faire s'ils veulent rester en vie. Donc, en ce sens, les choses ont beaucoup changé. Ce qui a beaucoup changé également, vous l'avez peut-être remarqué, à Kiev, et même à Odessa, il y a beaucoup plus de gens qui vont parler ukrainien qu'avant cette guerre à grande échelle. Donc, il y a vraiment une prise de conscience de l'identité ukrainienne et une prise de conscience par l'ensemble de la population ukrainienne que cette guerre n'est pas limitée au Donbass ou à la Crimée et qu'elle concerne l'ensemble du territoire ukrainien.
Alors, on va continuer d'entendre la parole des Ukrainiens, des témoignages dans une poignée de minutes, mais penchons-nous d'abord là où tout se joue, sur la ligne de front. Guillaume Ancel, spécialiste des questions militaires, écrivain, est en ligne avec nous ce matin. Guillaume Ancel, concrètement aujourd'hui, bonjour à vous d'abord, concrètement aujourd'hui, trois ans après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, comment le front a-t-il évolué?
Bonjour. Il faut reconnaître que le front, ces derniers mois, en fait, depuis pratiquement l'année 2024, depuis l'échec de la contre-offensive ukrainienne en 2023, s'est d'abord stabilisé et ensuite s'est retourné contre les Ukrainiens. Les Russes avancent inexorablement, mais très lentement. L'année dernière, en 2024, sur toute l'année, l'armée russe a réussi à conquérir, avec des pertes effroyables, 0,6% du territoire. Ce qui veut dire qu'à ce rythme-là, il lui faudrait un siècle pour arriver à soumettre l'Ukraine. Ça a des conséquences qui sont extrêmement importantes. Ça veut dire que l'armée russe, en l'état, n'a pas les moyens de soumettre l'Ukraine et que l'armée ukrainienne en l'état, vous l'avez très bien montré dans vos premiers reportages, les gens sont épuisés par trois années de guerre, ils n'ont pas les ressources cinq fois supérieures en hommes de la Russie, eh bien en l'état, l'armée ukrainienne n'a pas les moyens de chasser les Russes, ni même de les stopper complètement pour un facteur qui est un facteur de grand déséquilibre sur le front. C'est que les Russes utilisent énormément leur artillerie et surtout leur capacité de bombardement aérien. Or, les Ukrainiens n'ont jamais été autorisés à utiliser leurs avions pour pouvoir intercepter, c'est-à-dire en fait descendre des avions russes au-dessus du sol russe, parce que c'est de là d'où ils tirent, à 50, 100 kilomètres. Et par conséquent, ils peuvent bombarder au quotidien, aussi bien le front d'ailleurs que toutes les villes ukrainiennes, sans avoir peur d'être interceptés. Et ça, ça a été le déséquilibre majeur dans cette guerre qui fait que les Ukrainiens résistent, mais se font très progressivement, pénétrés par ces forces russes que rien n'arrête, même pas leur niveau de perte. Donc la situation sur le terrain n'est pas bonne, même s'il n'y a aucun des protagonistes qui a réellement un avantage décisif sur l'autre.
Guillaume Ancel, très rapidement, Oleksiy Goncharenko nous parlait de victoire tout à l'heure. Aujourd'hui, une victoire est-elle envisageable?
Une victoire par les Ukrainiens en l'état, non. Elle n'est pas envisageable, quelles que soient les armes qui soient livrées. Vous vous souvenez de tout ce qu'on avait raconté sur les missiles Taurus que les Allemands ne voulaient pas livrer, qu'ils allaient livrer. En fait, ces trois années de guerre nous ont surtout montré ce que les militaires savaient très bien c'est qu'il n'y a aucune arme qui change le cours d'une bataille. En réalité, ce sont uniquement les capacités de résistance des uns et des autres. Et les Russes montrent que malheureusement, ils sont prêts à sacrifier énormément pour avancer aux ordres de Poutine. Quand les Ukrainiens montrent qu'ils ont un esprit de résistance absolument remarquable.
Merci Guillaume Ancel. Vous écoutez RFI, les 7h20, ici à Paris, 8h20 à Kiev.
Édition spéciale Ukraine sur RFI.
Notre édition spéciale continue. Nous sommes à Kiev, 3 ans après le début de l'invasion russe en Ukraine. On parlait à l'instant du front. Est-ce que laisser des territoires à la Russie qui a près de 20% du territoire ukrainien aujourd'hui, est-ce que laisser des territoires à la Russie en échange de la paix est une option ? On va écouter un Ukrainien à ce propos.
Une bonne partie de la population civile est sans doute prête à la fin de la guerre à n'importe quel prix, quitte à donner 4 régions ou 5 régions aux Russes. Je suis persuadé que beaucoup de gens sont prêts à cela. Ce sont surtout des gens qui sont éloignés de la guerre, qui n'ont pas vu un missile tomber sur leur maison, dont les proches ne sont pas morts au front. Mais les gens qui se sont engagés volontairement dans l'armée pour défendre le pays ne sont évidemment pas prêts à la paix à n'importe quel prix, parce que combien de milliers de personnes avons-nous déjà perdu?
Concéder donc du territoire à la Russie, c'est l'un des points défendus par Donald Trump, le président américain, qui a fait que tout s'est beaucoup accéléré ces dernières semaines dans ce dossier de la guerre en Ukraine. Le dialogue a repris entre Washington et Moscou. Des pourparlers ont débuté, même si, et c'est ce qui inquiète beaucoup, Donald Trump semble s'aligner sur la position du Kremlin. Par exemple, donc, pour Donald Trump, le retour de l'Ukraine aux frontières d'avant 2014 est irréaliste, et c'est l'Ukraine qui a débuté la guerre. Maxime Chervaux, on a pu penser ici à Kiev que le salut de l'Ukraine viendrait de Washington. Est-ce qu'on tombe de haut aujourd'hui ?
Alors, pas complètement, parce que l'élection de Donald Trump avait déjà été vécue comme un certain revers par rapport à l'administration Biden, et notamment du fait de ses propos durant l'année. C'est d'ailleurs pour ça que le président Zelensky avait essayé de venir dès le mois de septembre pour renouer des contacts beaucoup plus proches avec Donald Trump et essayer de soumettre quelques idées sur comment tout le monde pourrait s'y retrouver du point de vue américain et du point de vue de Trump en particulier. Donc c'est vrai que les décisions, le fait que Donald Trump ait commencé de s'investir sur le sujet n'est pas une surprise. La vraie surprise, c'est la lourdeur des propos de Donald Trump ces dernières semaines, la lourdeur des demandes de Donald Trump ces dernières semaines, et simplement le fait qu'il ait mis à l'écart complètement le gouvernement ukrainien pour l'instant dans les négociations avec la Russie.
Tetiana Ogarkova, aujourd'hui, est-ce que vous craignez un deal dans votre dos?
En fait, bien sûr, il y a cette inquiétude que les Russes négocient avec les Américains comme ça, sans que les Européens et les Ukrainiens soient invités. Mais en même temps, d'après ce qu'on voit se dérouler à une vitesse incroyable durant ces derniers jours, on voit par exemple Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, de refuser n'importe quel deal sur les minéraux rares ukrainiens. Il y a des conditions. Il y a surtout donc le point crucial de toute négociation aujourd'hui, ce sont des garanties de sécurité. Pour l'Ukraine, ça veut dire très concrètement les garanties que la Russie ne réattaque pas après le cessez-le-feu. On comprend très bien, Donald Trump veut une chose, une seule chose. Il veut le cessez-le-feu pour se présenter en tant que vainqueur, c'est-à-dire qu'il a arrêté cette guerre. Nous, les Ukrainiens, on veut contre ce cessez-le-feu éventuel qui remettra la question de la reprise des territoires à plus tard par la voie diplomatique, on n'en sait rien, mais on veut des garanties de sécurité que la Russie n'utilise pas tout ce temps-là pour se préparer et pour réattaquer l'Ukraine une troisième fois. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exclure ce scénario.
Alors Tetiana Ogarkova, vous parlez de garantie de sécurité. Oleksiy Goncharenko, on l'entendait tout à l'heure dans les mots de Guillaume Ancel, la Russie avance inexorablement, la victoire semble impossible à ce stade. Alors si négociation il y a concrètement, qu'est-ce que les Ukrainiens ont à mettre sur la table ?
Premièrement, qu'est-ce que c'est la victoire? Je pense que c'est, il y a les émissions de Radio France Internationale de Kiev en direct après 3 ans de l'invasion grande et après 11 ans de guerre de la Russie contre l'Ukraine. C'est la victoire. C'est la victoire grande. Que l'Ukraine et les États indépendants, c'est la victoire. Maintenant, il y a question que l'Ukraine va rester l'État souverain aussi, avec les possibilités de faire le choix de nous-mêmes où nous approchons, que nous voulons être le membre de l'Union européenne, l'OTAN, et comme ça. Et je pense que c'est le plus important maintenant. Parler de président Trump et les négociations, oui. Aussi, moi aussi, je voudrais voir l'Ukrainien et les Européens dans cette table. Mais pour nous, la première chose, ce n'est pas la table, mais c'est le résultat de ces négociations. Et je pense que nous pouvons espérer que cette deal que président Trump a dit, que c'est possible, que ce deal sera normal pour nous, mais pour le moment, nous ne croyons pas.
Alors, un deal, on en parlait, des garanties de sécurité, des concessions territoriales potentiellement, puisque la Russie est donc présente sur le territoire ukrainien actuellement, hein, près de 20% du territoire, on le disait. Emmanuel Chaz, un récent sondage parle de 38% des Ukrainiens prêts à ces concessions territoriales. En novembre, ils étaient 32%. L'idée fait son chemin. Que pensent les Ukrainiens que vous avez pu rencontrer à ce propos?
Alors, l'idée fait son chemin, sauf que ça reste une minorité. Il faut savoir que beaucoup d'Ukrainiens ont déjà perdu des proches dans cette guerre, directement, indirectement. Beaucoup ont également dû quitter leur maison. Il y a des millions de déplacés internes. Ça reviendrait un peu à dire laisser des territoires, tout ça pour ça. Autant de morts pour ça, autant de destruction pour ça. Donc, la majorité n'est pas prête à le faire. Et puis, il ne faut pas enlever le sens de l'autodétermination de l'Ukraine. Donald Trump peut dire ce qu'il veut. Vladimir Poutine peut dire ce qu'il veut. Les Ukrainiens, jusqu'à preuve du contraire, font toujours partie d'une nation souveraine, avec un président qui est d'ailleurs démocratiquement élu, contrairement à ce que dit Donald Trump. Donc c'est une majorité qui serait prête à ces concessions territoriales, qui ne serait pas prête à ces concessions territoriales. Et puis, il y a toujours ce taux d'approbation de la politique du gouvernement qui, pour l'instant, est inflexible à ce propos.
Et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, on voit bien que c'est pas un sujet, en tout cas pour Washington, en témoigne ce projet de résolution très flou, et sans cette mention déposée par les États-Unis qui sera débattue aujourd'hui à l'Assemblée des Nations Unies. Maxime Chervaux, très rapidement, un autre point dans ce deal, peut-être cette question des terres rares en Ukraine.
Oui, c'était une idée qui a été soufflée donc par le président Zelensky en septembre 2024. L'idée était justement de donner à Trump, qui est toujours dans la négociation, dans le business, on va dire entre guillemets, quelque chose que les Américains, que lui-même pourrait montrer comme une victoire également en échange du soutien américain. Il y a plusieurs difficultés. La première, c'est que bon, pour l'instant, on est dans une période de négociation. Donc, Donald Trump a proposé il y a 2 semaines un projet qui est purement inadmissible du point de vue ukrainien ou moral. Mais la négociation est à ce moment en cours et donc du coup il y a un réel réajustement des demandes. Il y a plusieurs sujets.
Projet, on le rappelle rapidement, c'est 500 C'était... milliards de dollars de minerais stratégiques en échange, enfin en remboursement en quelque sorte de l'aide qui a déjà été apportée.
C'est ça. Alors c'était justement la raison des propos très très virulents de Donald Trump cette dernière semaine. C'est-à-dire que quand le 12 février le projet était déposé, l'Ukraine a dit non. Et Donald Trump a essayé de faire monter les enchères justement en invectivant le président Zelensky et l'Ukraine de manière générale. Et il y a une négociation autour de ça. C'était à peu près, voilà, pour chaque dollar de fait sur les terres rares, les Américains prenaient 50 centimes. Et surtout, les futures licences ou les futures licences qui étaient données par l'Ukraine à des critères décidés conjointement par les Américains et les Ukrainiens. Donc là, il y a une réelle négociation qui est en cours, en sachant que Donald Trump avait déjà dit le 12 février que l'Ukraine est d'accord pour donner 500 milliards de dollars de revenus liés aux terres rares. Alors donc la négociation est en cours en ce moment. Il y a plusieurs problèmes avec les terres rares. La première, c'est que les cours des terres rares, les terres rares ne sont pas vraiment rares, donc il y a quand même une surinflation de cet intérêt. Et deuxièmement, c'est que les analyses géologiques datent souvent de l'époque soviétique, donc on n'a pas non plus vraiment de connaissances très précises sur le montant de ces terres rares.
On aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, notre édition spéciale continue. Restez bien avec nous dans 30 secondes de journal.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
Mpox, Ebola, grippe aviaire, état des lieux des maladies infectieuses et émergentes.
Demain,
prendre soin de ses genoux.
contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur